2 Chroniques chapitre 20, versets 20 à 22. Nous avons trouvé le texte. Si vous y êtes, dites « Nous y sommes ». Si vous n'y êtes pas, dites « Attendez ». C'est « Nous y sommes » ou bien c'est « Attendez » ? Ok, allons-y. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu. » Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Verset 21. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébrant l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Seigneur, bénis ta parole ce matin au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je voudrais vous parler de 7 clés pour vivre une vie comblée et victorieuse. 7 clés pour vivre une vie comblée et victorieuse. Quand on parle de la victoire, les dictionnaires l'ont définie comme étant un succès obtenu dans un combat, une bataille ou bien une guerre. Quelqu'un remporte une victoire dans ces événements. On parle aussi d'une heureuse issue d'une lutte, c'est-à-dire vous avez lutté pendant un moment, il y a eu opposition, il y a eu compétition, il y a eu concurrence, il y a eu acharnement. Et puis, la personne qui prend l'avantage, c'est la personne pour laquelle on dit, eh bien, il a obtenu la victoire. La grâce que nous avons en tant que chrétiens, et le pasteur Hardy nous en a parlé le dimanche passé, c'est qu'en ce qui nous concerne, la victoire a déjà été remportée en notre faveur. Ça veut dire qu'il y a 2000 ans sur la croix à Golgotha, lorsque Jésus-Christ a dit « Tout est accompli », eh bien, nous avons obtenu cette victoire. Ça veut dire que toutes les batailles que nous sommes en train de mener maintenant sont des batailles en différé. La couronne nous a déjà été attribuée. Une autre chose qu'il est important de comprendre, c'est que quand nous sommes dans le Seigneur, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Pourquoi ? Parce que nous faisons partie de l'équipe où le plus grand buteur que le monde ait jamais connu a déjà remporté la victoire en notre faveur. En acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce que nous avons fait, c'est entrer dans cette équipe-là, l'équipe des vainqueurs. Pourquoi ? Parce que nous avons eu un attaquant de taille qui a remporté la victoire. Mais bien que nous sommes dans l'équipe, dans cette équipe-là, imaginez-vous, vous qui êtes des fanatiques du football, si vous entrez dans une équipe où il y a un joueur comme Lionel Messi, ou quel autre grand joueur vous connaissez ? Ronaldo, vous êtes dans une équipe comme celle-là, vous savez qu'en plus de vos talents et de vos capacités de joueur de football que vous allez exercer et utiliser sur le terrain, vous savez également que chaque fois que vous aurez à passer le ballon à l'un de ces attaquants, eh bien ça va certainement se résoudre par une victoire. C'est le type d'assurance que nous avons quand nous savons que nous sommes du côté de Jésus-Christ et que nous sommes dans son équipe. Nous sommes en train de jouer, nous jouons notre part, mais nous savons que le buteur va certainement marquer. La première chose que je voudrais partager avec vous, quand vous regardez dans ce texte, vous allez constater que Josaphat a fait face à une grande opposition. C'est-à-dire plusieurs armées se sont mises ensemble et ont décidé de venir attaquer Juda. Et la Bible dit qu'à un moment donné, il a pris frayeur, il a eu peur. Mais plutôt que de s'éloigner du combat, il s'est tourné vers celui qui est capable de faire remporter les victoires. C'est pourquoi retenez ceci. Certaines victoires physiques ont un conditionnement spirituel. C'est-à-dire, vous réussissez dans le visible ce que vous investissez dans l'invisible. C'est pour ça que sur la montagne, lorsque Moïse se trouve avec Aaron et Hur en train de prier, la responsabilité de Aaron et Hur, c'était de maintenir les mains de Moïse élevées. Et qu'est-ce qui se passait lorsque les mains de Moïse étaient élevées ? Sur le champ de bataille, Josué remporter la victoire. Et s'il arrivait qu'il faiblisse un petit peu, il y aurait défaite sur le champ de bataille. Ça veut dire, retenez ceci, votre conditionnement spirituel, votre croissance spirituelle, votre connexion à l'invisible, votre développement de l'invisible va conditionner votre victoire dans le visible. Première clé, la prière. Josaphat s'est tourné vers le Seigneur avec tout le peuple. Dans Daniel chapitre 6, verset 10, la Bible nous dit que lorsque Daniel sut qu'un décret néfaste avait été publié, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Daniel est pourtant un personnage ou une personnalité administrative, c'est-à-dire qu'il a une fonction politico-administrative. Et quelqu'un peut penser que quand vous êtes dans ce type d'activité, eh bien le spirituel n'a plus d'importance. Eh bien Daniel a compris que même pour mon activité spirituelle et politique, si je veux obtenir la victoire, ce sera sur mes genoux. Que quelqu'un comprenne ce secret. C'est pour ça que la Bible déclare dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 18, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Et regardez ce que Jésus nous donne comme grand secret, que certains dans le monde, le monde occulte, ont essayé de récupérer en publiant des principes psychologiques pour dire que bon, il est possible d'attirer par les pensées une certaine victoire. Mais cela est venu et a un soubassement biblique. Mais ils n'ont simplement pas voulu attribuer le crédit à Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit ceci dans Matthieu 21, verset 22. « Tout ce que vous demandez en priant, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Je prie ce matin que ce soit le partage de quelqu'un qui va prendre ça en application. Et rappelle-toi, Jésus a dit tout. Ce n'est pas 10%, 20%, 50% ou 60%, mais tout ce que tu demanderas avec foi, par la prière, tu le recevras. Mais faut-il encore que cette prière soit conforme à la parole de Dieu ? Deuxième clé dont nous avons besoin, c'est la parole. Et la Bible nous dit dans Josué 1:8, ce passage que nous connaissons, certains d'entre nous le connaissent par cœur, et si vous le connaissez par cœur, récitons-le ensemble. Josué 1:8, go. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Je voudrais attirer notre attention sur un aspect de ce passage. On a parlé du livre de la loi, on a parlé de ne pas s'éloigner de la bouche, c'est-à-dire une déclaration, pendant que tu le lis, tu professes, tu proclames, tu déclares, mais regardez, médite-le jour et nuit. La méditation est différente d'une simple lecture. La méditation, c'est la capacité d'entrer dans ce passage des Écritures, y réfléchir et y voir tous les contours. C'est ainsi que vous serez en mesure de prendre l'importance et la puissance du passage. C'est différent de la lecture. C'est pourquoi certaines personnes sont en mesure de prendre un simple passage biblique, le présenter auprès du Seigneur et tirer auprès du Seigneur les bénéfices de ce passage biblique. Il y a très longtemps, je vous ai raconté qu'à un moment donné, j'avais un corps étranger qui me sortait à l'orteil. Et c'était comme une cellule cancéreuse. Mon grand-père est mort de ça, et ma grand-mère avait eu ces mêmes douleurs, elle a dû subir une opération. J'avais subi la première, et j'avais subi la deuxième intervention. Mais entre la deuxième et la troisième intervention qui était programmée, je suis tombé sur un passage des Écritures qui disait qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile. Alors je me suis dit, comment activer ce passage en ma faveur? Eh bien, si on parle de beaux pieds, et aujourd'hui j'ai de beaux pieds, mais je ne peux pas vous les montrer. Si on parle de beaux pieds, ces beaux pieds sont conditionnés par l'annonce de l'Évangile. Je me suis dit, j'avais commencé à annoncer l'Évangile, je vais redoubler d'efforts dans l'annonce de l'Évangile. Et pendant qu'on était en train d'aller avec notre petit groupe, on avait une guitare, je jouais à la guitare des fois dans les ronds-points, dans les rues, les avenues, on était en train de proclamer la parole de Dieu et publier et tout ça. Un soir, je suis assis avec ma mère et on est en train de parler derrière la maison et puis mon opération est prévue pour quelques jours et ma mère me pose la question de savoir est-ce que tu peux me montrer un petit peu où en es-tu avec ton orteil, que je vois si ça a grossi et si ça a changé. Alors j'ai regardé mon pied, j'ai enlevé les babouches que j'avais et je me suis aperçu, mais peut-être c'est l'autre pied, j'ai regardé sur l'autre pied, il n'y avait rien. J'ai re-regardé le pied, il n'y avait rien et je venais de constater que Dieu m'avait miraculeusement guéri. Ma prière pour quelqu'un ce matin, c'est que la parole de Dieu ne soit pas simplement un récit que le pasteur André ou le pasteur Wayne vous raconte à l'église, mais c'est que la parole de Dieu devienne ta nourriture de tous les jours et que tu puisses en voir les effets. Que cette parole soit faite chair dans ta vie, que des choses soient concrétisées. La méditation permet d'être plus présent à soi-même. Elle nous permet d'être en parfaite harmonie avec Dieu. Et selon les résultats, une méditation quotidienne et régulière, je reprends, quotidienne et régulière rendrait le corps plus efficace dans la gestion des pressions quotidiennes. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont déprimés, des gens qui sont abattus. Et pendant que j'étais en train de prier pour ce message aujourd'hui, Dieu m'a même révélé qu'il y a quelqu'un qui était en train de contempler le suicide, tellement la dépression l'avait rongé. Et on vous parle d'aller chez les psychologues, c'est pas mauvais, je vous encourage à le faire. Chez les psychiatres, on vous donne des médicaments pour traiter ces choses. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est que nous avons dans la parole de Dieu un remède à toutes les situations que nous traversons. Alors ce que je vous propose, c'est ceci. Prenez chaque jour quelques minutes où vous faites le silence autour de vous et vous vous concentrez sur la parole de Dieu. Et si vous voyez dans un passage biblique l'opportunité de saisir une promesse, tout comme Josaphat l'a fait avec le peuple, la victoire n'a pas été obtenue au moment où ils étaient sur le champ de bataille, la victoire a été obtenue au moment où la parole était sortie de la bouche de l'Éternel à travers son prophète. Quand il a dit « Mettez les chantres à l'avant », à partir du moment où Dieu l'avait dit, la chose a été accomplie. Et quand vous voyez cette promesse dans la parole que vous êtes en train de méditer, faites-en une affaire personnelle. Jean chapitre 15, verset 7, Jésus dit ceci, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Jésus lui-même qui l'a dit. Dans Hébreux chapitre 4, verset 12 à 13, la Bible dit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. » Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Troisième clé, la piété. La piété. La piété est définie comme la composante de la foi qui consiste à adopter une attitude de respect et de soumission envers Dieu. À avoir confiance en sa sagesse, en sa puissance et en son amour. Les gens qui pratiquent la piété sont des personnes qui sont engagées et consacrées. Il est impossible de pouvoir avoir la piété et de rester comme un spectateur dans ton église locale. Impossible. Pourquoi ? Parce que tu réalises que la Bible déclare dans Matthieu chapitre 6, « Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données de surcroît. » Retenez ceci. Dans l'église locale, il n'y a pas de spectateurs d'un côté et les acteurs de l'autre. Nous sommes tous censés faire partie du corps du Christ. J'ai eu un problème à un moment donné avec l'un de mes doigts et vous savez que j'ai dû aller pour me faire opérer. Mais le fait que j'avais un problème avec l'un des doigts, j'ai 5 doigts sur une main et j'ai 5 doigts sur une autre. En total, j'ai 10 doigts de la main. Mais le fait que j'avais un problème avec l'un d'entre eux, j'étais presque handicapé pour le restant du fonctionnement de mon corps. C'est ce qui arrive lorsque des membres du corps du Christ estiment qu'ils viennent à l'église pour regarder les autres servir et que eux peuvent rester assis. Le corps est en difficulté. Mais ma prière est que toi qui es là ce matin réalises que ta place est dans le corps du Christ, dans l'armée de l'Éternel. Et que pendant que tu t'engages, Dieu te donne également les bénéfices de l'engagement que tu es en train de consacrer à l'Éternel. Alors, quatre choses importantes dans la piété. Premièrement, c'est l'amour. 1 Jean chapitre 2, versets 10 à 11 dit ceci: « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » L'amour. Lorsqu'on a mis Jésus à l'épreuve et qu'on lui a posé la question « Mais dis-nous, quel est le plus important des commandements ?» Il a dit « C'est très simple. Si vous avez oublié tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, retenez ceci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est la croix, verticale et horizontale. Mais la réalité est la suivante. L'apôtre Jean a dit ceci. Si toi tu dis que tu aimes Dieu, vertical, mais tu es ton frère, horizontal, tu es un menteur. Parce que tu ne peux aimer Dieu que tu ne vois pas, tu ne peux aimer le Dieu que tu ne vois pas si tu es ton frère que tu vois. La meilleure manière de témoigner ton amour à Dieu que tu ne vois pas, c'est d'aimer ton frère et ta sœur que tu vois. Alors si tu es là, dis à ton voisin, je t'aime de l'amour du Seigneur. Et les célibataires, je ne parle pas de cet amour-là. Deuxième ingrédient important de la piété, le pardon. Le pardon, c'est-à-dire la capacité de libérer une personne qui peut vous avoir causé du tort. Dans Colossiens 3, verset 13, la Bible dit ceci, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous. » Et Jésus va même jusqu'à dire, en fait, la réalité est celle-ci, « Si toi tu ne pardonnes pas, le Père ne te pardonnera pas. » Certains d'entre nous, les souffrances que nous avons dans notre corps, les maladies chroniques, les difficultés mentales, les déséquilibres mentaux que nous avons, toutes ces choses n'ont rien à voir avec un aspect tout à fait physique et chimique, mais ont tout à voir avec le fait que tu as gardé rancune vis-à-vis de quelqu'un. J'étais surpris d'entendre une personne âgée qui était en train de reprocher sa mère en disant que quand ils étaient petits, comme il l'interdisait de sortir et d'aller jouer avec ses amis, c'est pour ça qu'elle est devenue une personne colérique. Elle ne supporte pas la présence des autres. Mais tu as 40 ans. Tu parles de ce qui s'est passé quand tu avais 6 ans et tu es en train de reprocher ta mère. Libère ta mère. Libère ton père. Libère ton bourreau. Libère la personne qui t'a chassé du boulot. Libère celui qui est en train, même à présent, de calomnier et de murmurer contre toi. Pardonne. Pardonne. Un autre ingrédient de la piété, la foi. La Bible dit dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 7, « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance à la patience à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. » Et il va plus loin en disant qu'en fait, si vous faites ces choses-là, vous ne broncherez en rien. C'est-à-dire, vous serez stable. Quelles que soient les situations qui peuvent arriver dans votre vie, vous serez stable parce que vous savez que vous avez mis ces choses en pratique. Non pas pour la victoire, mais parce que vous êtes dans la victoire. C'est pourquoi, regardez ceci. Il n'y a pas longtemps, vous avez vu à la télévision que la reine Elisabeth II est décédée. Et ce qu'il y avait de surprenant, c'est qu'on la pleurait non seulement en Angleterre, en Grande-Bretagne, mais même en Afrique, il y a des gens qui ont fait des deuils. Bon, je ne suis pas contre la couronne britannique, mais il y en a qui pleuraient comme s'ils avaient perdu un membre de famille, la bouche ouverte avec les larmes qui coulent. Ah, « Reine Elisabeth, Elisabeth !» Je voulais simplement leur rappeler que c'était la reine d'Angleterre. Angleterre. L'un des pays qui essaye de vous empêcher, vous, d'y aller quand vous demandez un visa pour y aller. Un pays qui a un passé colonial. Colonial, c'est-à-dire ils vous ont colonisé. Mais tu pleures comme si c'était ta tante qui était décédée. Bon, bref, c'était une parenthèse. Et puis, après qu'on ait annoncé le décès, de la reine Élisabeth, on a couronné son fils qui s'appelait Prince Charles. Et Prince Charles est devenu roi Charles. Mais regardez la beauté que nous avons chez nous en Christ. Le prince Charles n'a rien fait de spécial pour passer de prince à roi. Tout ce qu'il a fallu, c'est que sa mère, la reine, puisse décéder. Il est devenu roi. Mais il ne pouvait pas porter le titre de roi tant que sa mère était vivante, parce qu'elle, elle était reine. Il a fallu qu'elle meure pour qu'il porte le titre de roi. Laisse-moi te dire trois vérités. La première, c'est qu'en ce qui nous concerne, Jésus est mort et Jésus est ressuscité. Donc nous pouvons déjà porter le titre de roi et reine. Tu peux saluer ton voisin en disant « Bonjour ta majesté ». Sa majesté. Deuxième vérité, c'est qu'il n'est pas menacé par ce titre parce que lui-même porte le titre du roi des rois. Troisième vérité, puisque vous êtes dans la royauté divine, marchez comme les conquérants de la royauté divine parce que celui-là a remporté la victoire pour vous. Et toi qui luttes contre le péché, sache qu'il l'a vaincu il y a 2000 ans sur la croix. Il y en a qui se lèvent et puis qui tombent. Le même péché de mensonge, calomnie, murmure, impudicité, adultère, fornication. Il t'a déjà donné la victoire. Il t'a appelé roi parce que lui-même s'est placé comme étant le roi des rois. Utilise simplement tous les attributs de la royauté pour vaincre ceux qui étaient en train de dominer sur toi dans le passé. Ensuite, la pratique de la parole. Jacques chapitre 1 verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par de faux raisonnements. Mettez simplement en pratique la parole de Dieu. Et enfin, la persévérance. Dans Hébreux chapitre 12 verset 1 à 2, l'auteur du livre des Hébreux nous dit que nous qui sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, les gens vous observent. Le plus grand témoignage que vous puissiez donner n'est pas celui de la parole que vous proclamez, mais de la vie que vous menez. Quelqu'un viendra à Christ à cause de ton comportement, mais quelqu'un s'éloignera de Christ à cause de ton comportement aussi. Et fais très attention à cela. Quatrième clé, la pensée. Dans Lamentations, chapitre 3, le prophète est en train de passer par des moments difficiles. Et il dit même dans les versets 14 et 20, il dit ceci: je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Laisse-moi te dire que si tu veux t'engager dans la foi, tu seras raillé. On va se moquer de toi. On va sortir des histoires à dormir debout sur toi. Chaque jour, dit-il, je suis l'objet de leurs chansons. Et il dit, Dieu m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe, il a brisé mes dents avec les caillots, il a ouvert couvert de cendres, tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance et en éternel, car je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Combien de fois j'ai reçu des gens au bureau qui me disaient, pasteur, rien ne marche, blocage sur blocage. Famille, boulot, emploi, amitié. Et puis, pasteur, je suis toujours célibataire. Le célibat n'est pas une malédiction. Je reprends, le célibat n'est pas une malédiction. Évitez plutôt un mariage raté. C'est pourquoi, tant que vous êtes célibataire, préparez-vous à devenir la personne que Dieu veut que vous soyez, afin d'être une bénédiction à la personne que Dieu va vous apporter. Il y aura beaucoup de mariages ici, énormément. Vous allez avoir des mariages et on va succéder pire qu'à Bukavu. On va les célébrer ici. Mais ce seront les mariages des personnes mûres et matures qui entrent dans les liens sacrés du mariage pour donner et non pas chercher à prendre et à s'accaparer. Et plus ils donnent, plus ils reçoivent. C'est la loi de Dieu. Et toutes ces personnes présentent tous ces problèmes, tout comme le prophète était en train de dire. Et à un moment donné, il se ressaisit. Je vois tout ce qui se passe autour de moi. Oui, je vois les troupes qui sont amassées. Ils se sont ligués contre moi. On parle de moi dans la famille, on parle de moi à l'école, on parle de moi négativement partout ailleurs. Et regardez, il arrive au verset 21 et il dit ceci. Voici, je prends cette décision. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Versets 21 à 23, Lamentations chapitre 3. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Oh, que ta fidélité est grande. Retiens que tes pensées ont tendance à conditionner ce que tu reçois. Ça veut dire que si tu te laisses aller par le malheur et la misère dans laquelle tu te trouves, tu risques de voir même les événements heureux comme s'ils étaient malheureux. Pourquoi ? Parce que souvent, les opportunités se cachent dans les obstacles. Les opportunités se cachent dans les obstacles. Et si tu conditionnes dans ta pensée de te dire, et je ne parle pas d'une pensée positive, je parle d'une pensée biblique. Pourquoi ? Parce que la pensée biblique peut être positive, mais toutes les pensées positives ne sont pas nécessairement bibliques. Faites attention à ces théories-là. Je parle de la pensée biblique. Et il dira, l'Éternel est mon partage. Quatrième, cinquième clé, le partenariat. Le partenariat. Rappelez-vous des cinq alliances dont je vous ai parlé. Faites une alliance avec Dieu. Faites une alliance avec la famille. Faites une alliance avec un mentor, c'est-à-dire quelqu'un qui peut vous conduire pour réussir dans un domaine dans lequel lui, il a réussi. Faites une alliance ensuite avec un partenaire, un coéquipier, quelqu'un avec qui vous pouvez partager les événements de la vie. C'est pour ça que Jésus les envoyait toujours deux à deux. Et je conseille que pour un homme, que ce soit un homme, pour une femme, que ce soit une femme, évitons les dérapages. Je reprends, évitons quoi ? Les dérapages. Oh, nous sommes extra-spirituels. On n'aura pas de problème. Non. Coéquipier, partenaire, choisissez quelqu'un, n'est-ce pas, du même genre que vous, pour éviter qu'à un moment donné, il puisse y avoir des visions. Oh, la nuit, j'ai rêvé qu'on ne travaillait pas seulement ensemble, mais je nous ai vus devant le pasteur Camille et toi, tu étais habillé en blanc. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Non. Il les envoyait deux à deux. Le partenariat est important en quoi ? Ecclésiastes chapitre 4, verset 9 à 10 dit ceci. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un secours pour le relever. Que Dieu te donne des personnes, et une personne en particulier, qui aura confiance en toi et en qui tu auras confiance, et qui va t'encourager à toujours faire mieux dans ta marche avec le Seigneur, qui sera en mesure de te regarder en face et de te dire « Arrête, car ce que tu es en train de faire va finir par te détruire. » Je prie que dans ton entourage, il y ait des personnes de ce genre. Regardez ce que Henry Ford a dit, « Se réunir, c'est un début. Rester ensemble, c'est un progrès. Mais travailler ensemble, c'est ça la réussite. » Je prie que cette église soit une église qui réussit et qui continue à réussir, surtout parce que les gens que nous sommes travaillent dans l'unité et nous sommes un. La clé suivante que je voudrais partager, c'est les projets. Et vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il a mis les projets ? Clé de la victoire. Non. Clé pour vivre une vie victorieuse. Je n'ai pas dit que c'est pour avoir la victoire, mais c'est pour vivre dans la victoire. Pourquoi est-ce qu'il parle de projets ? C'est pas moi. Celui qui a commencé à parler de projets, c'est lui qui a parlé de Jérémie 29, 11. Il a dit ceci, car je connais les projets que moi, j'ai formés sur vous. Ce n'est pas une simple pensée, ce n'est pas une simple attitude, c'est un projet. Dieu s'est assis, il a regardé Jonas et il a dit, ok, voilà comment je vais faire le projet de la vie de Jonas. À un moment de sa vie, il va rejoindre un jour nouveau. Et là, il sera le chanteur et le danseur en chef. Et là-bas, à un jour nouveau, il va rencontrer celle qui deviendra l'os de ses os, la chair de sa chair. Il va également travailler à tel endroit. Il a fait des projets. Il y a d'autres choses, mais ça, je te dirai en privé. Et pendant qu'il est en train de parler et de faire ce projet, il a disposé en faveur de Jonas tous les éléments et les attributs pour réussir le projet que lui a formulé sur Jonas. Si tu es le projet de Dieu, laisse-moi te donner un secret. Je te donne ce secret maintenant. Dieu n'a jamais fait de projet qui a échoué. Parce que nos projets à nous dépendent des paramètres des temps et des circonstances. Du gouvernement, de l'économie, de la bonne volonté de nos gouvernants ou de nos parents. Mais lui, quand il fait un projet, il est lui-même le maître des temps et des circonstances et il prend toutes les circonstances et les temps pour concourir au succès du projet que lui, il a fait. C'est pour ça qu'il n'a jamais fait de levée de fonds. Jésus n'a jamais fait de levée de fonds. Mais regardez, si lui a fait des projets, il nous a montré un exemple. Tel père, tel peuple. Tel Dieu, tel peuple. Il a fait des projets. Regardez ce qui est dit dans Proverbe 16, verset 3. « Recommande à l'Éternel tes œuvres. Tout ce que je fais, je recommande à l'Éternel. Je suis en train de créer une activité, une initiative, une entreprise. Je recommande à l'Éternel. Je recommande tout ce que je suis en train de faire. Seigneur, je pense que je peux m'allier avec cette personne. Seigneur, je recommande ça. » Mais il regarde ce qu'il dit. Recommande tes œuvres à l'Éternel, mais qu'est-ce qu'ils réussiront ? Waouh ! Ce sont tes projets qui réussiront. C'est pour ça, laissez-moi vous dire ceci. Est-ce que j'ai toujours réussi dans tout ce que j'ai fait ? Pas nécessairement. Mais j'ai toujours eu la pensée de l'apôtre Paul, Romains 8, 28. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Là où le monde pensait que j'avais échoué, la perspective de Dieu était que tu as simplement pris une étape davantage vers le succès et la réussite. C'est pourquoi quelqu'un a dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Que ceci soit ton partage. Que dans chaque circonstance, plutôt que de verser des larmes de lamentation, tu te dises « Ça, ça a semblé ne pas marcher, mais je sais que derrière, Dieu est en train de me préparer une grande victoire et un grand succès. » C'est pourquoi aux yeux du monde, mais Jésus avait lamentablement perdu. Aux yeux du monde, il avait lamentablement perdu. Il passe d'une congrégation de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, à 70, et puis 12, et puis 11, et puis quelques-uns à la croix. Et puis à la fin de l'histoire, on raconte qu'il a été pendu au bois, crucifié. Et le monde va dire, vous voyez, votre sauveur. Avant qu'Abraham ne soit, j'ai fui, tala, azawapi. J'ai fui, wapi, où est-ce que tu es ? Il a échoué. Regardez, le monde regardait l'échec ici et Dieu regardait la victoire ici. Pourquoi ? Parce que chaque croix cache une couronne et chaque défaite cache une victoire. C'est sur cette même croix où les chroniqueurs ont dit « Cette fois-ci, c'est fini pour lui » que lui-même a dit « Maintenant, tout est accompli, tout ce que je devais faire a été fait. » Et dans le monde spirituel, il a livré publiquement en spectacle les principautés, les autorités, les dominations, l'esprit méchant dans les lieux célestes. C'est à ce moment-là. C'est pourquoi change ta perception d'une perception physique, humaine, terrestre, à une perception spirituelle. L'apôtre Paul, le même apôtre Paul qui dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Flagellé, battu, humilié, trahi, il dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur. » Parce que notre cité n'est pas d'ici, notre cité est là-bas. C'est pour ça que je suis pressé de toutes parts, dit-il. Je veux être avec vous, mais pour moi, vivre, mais c'est Christ. Comment voulez-vous tuer quelqu'un qui a une espérance qui ne meurt jamais ? Impossible. Projet. Lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, Luc chapitre 14, versets 28 à 32, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. Faites des projets. Écrivez-les. Il n'y a pas longtemps, je recommandais à quelqu'un qui cherchait à perdre du poids. Et je lui ai dit, écoute, voilà, je vais te donner un secret. Tu veux perdre du poids ? Ok, fais un projet. Donne la date où tu veux atteindre tel chiffre. Ok, maintenant, par exemple, tu es à 120 kilos. Ne me regardez pas, ce n'est pas moi. Tu es à 120 kilos. Dis-toi, par exemple, que dans 2 semaines, tu veux être à 105. Mais attention, quand tu te le dis, ne te le dis pas seulement, écris-le. Ok ? Dans 2 semaines, je suis à 115. Dans 4 semaines, je suis à 110. Et puis, 100. Et puis, j'ai le poids du pasteur André. Ça, c'est la victoire. Vraiment, le poids du pasteur André, ça, vraiment, ça, c'est la victoire. La victoire. Et regardez ce qui s'est passé. La personne a commencé à observer, petit à petit, que ce qu'elle avait proclamé, ce qu'elle a cru et ce qu'elle a écrit commençait de plus en plus à se réaliser. Pourquoi ? Parce que chaque jour, la personne pouvait faire la déclaration « Je pèse autant, je crois que cette victoire m'appartient. Le corps que Dieu m'a donné va m'être restitué. » Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, elle a déjà perdu, cette personne, un grand nombre de kilos. Pourquoi ? Elle en a fait le projet. C'est le projet qui réussit. Et enfin, je termine avec cette clé ici. La proclamation. Je viens d'en parler un petit peu. Proclamer. Nombre chapitre 13, on nous parle de cette histoire où les espions sont entrés dans la cité de Canaan et ils devaient espionner. Et là, ils ont rapporté des témoignages. 10 ont rapporté un témoignage négatif et 2 ont rapporté un témoignage positif. Caleb, dans Nombre chapitre 13, verset 30, a dit ceci. Caleb fit taire le peuple. Et des fois, quand tu es dans ta famille et qu'on est en train de se lamenter de ce qui se passe dans ta famille, fais taire les gens qui sont en train de faire les prophètes de malheur. Fais-les taire. Tu es au milieu des amis qui pensent que vous ne réussirez pas, fais-les d'abord taire. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Oh, » Caleb, soyons humbles. Zala humble, petit. Regarde les géants, regarde les géants. C'est pourquoi que Dieu nous donne la capacité d'avoir un regard spirituel qui est plus fort que le regard physique. Nous allons nous emparer, dit Caleb. Et regardez, à cause des autres, Caleb et Josué ont dû passer 40 ans dans le désert. Mais ne vous inquiétez pas des 40 années dans le désert. Vivez une vie de célébration continue. Parce que la fin de l'histoire, c'est que les deux seuls qui ont fait la déclaration, les deux seuls, qu'est-ce qui le distingue, Josué, Caleb, de Moïse ? Moïse était le leader, il n'y est pas entré. Qu'est-ce qui les distingue des autres ? C'est que Josué et Caleb, non seulement ils ont cru, mais ils ont déclaré ce qu'ils ont cru. Nous allons nous emparer, nous entrerons. Et Nombre chapitre 14, verset 24, regardez ce que la Bible dit. « Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. » Je prie que tes déclarations donnent ta direction et que ta direction te donne la victoire. Déclare certaines choses sur ta vie. « Je ne mourrai pas, je vivrai. » Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Pourquoi ? Parce que la Bible dit dans Proverbe 18:21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Y a-t-il quelqu'un de malade ce matin ? Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, car Dieu a fait ces choses. Baissons nos têtes dans la prière. Proclamation. Déclaration. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne marche pas pour la victoire, mais je suis dans la victoire. Dieu a fait pour moi de grandes choses. Je ne prie pas pour réussir, je prie parce que j'ai réussi. Et je veux rester en communion avec celui qui m'a donné la victoire. Je ne médite pas pour avoir la victoire, mais je médite parce que je veux rester en contact avec celui qui m'a donné la victoire. Je pratique la piété. J'ai une pensée biblique. Je m'associe avec des personnes qui craignent l'Éternel. Je formule les projets que l'Éternel met dans mon cœur et dans mon âme. Et je proclame sa victoire. Ce matin, je voudrais simplement appeler quelqu'un qui est passé ou qui passe par des moments de dépression profonde. Et parmi ces personnes, je veux avoir la main aussi de la personne qui avait contemplé le suicide, mettre un terme à sa vie. Pendant que nos têtes sont baissées, nos yeux sont fermés, lève la main là où tu es, je vais prier avec toi et pour toi. Je vais prier avec toi et pour toi. Je voudrais voir ta main là où tu es. Gloire au Seigneur. Et ceux qui sont déterminés à mettre en pratique toutes ces clés de la victoire, et je crois que c'est nous tous, je voudrais que nos mains se lèvent simplement en signe de victoire. Père, merci, nous voici devant toi. Ces clés, nous voulons les mettre en application. Et nous voudrons, éternel Dieu de gloire, vivre une vie comblée et victorieuse, qui te rende honneur et que nous puissions être dans la célébration. Baissez vos mains et nous allons accompagner notre bien-aimé qui va accepter le Seigneur. Et répétons cette prière. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Je dis non à Satan. Je dis non au monde. Je dis non au diable de la chair. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Désormais, je veux te célébrer car je marche dans la victoire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur.